à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous Face. Et ce matin, je vous propose de comprendre la grande métamorphose que vit notre pays depuis une quarantaine d'années. 40 ans qui ont transformé la France en profondeur, sa géographie, sa sociologie, sa démographie, ses modes de vie, ses goûts, ses rêves, ses aspirations, ses idéaux. Le politologue Jérôme Fourquet et le journaliste Jean-Laurent Casselli proposent une passionnante radiographie intime et collective de notre pays, en puisant dans des données officielles, mais également dans la culture populaire, la presse, la photographie, la littérature. C'est un portrait impressionniste et précis que nous racontent les deux auteurs, des plateformes logistiques d'Amazon en passant par les cours de pole dance, des émissions immobilières de Stéphane Plaza en passant par les boulangeries des ronds-points, des villages de néo-ruraux dans la Drôme au club de bikers en passant par le succès de la dance country ou des tacos. Comment cette France qui ne rêve pas dans la même direction peut-elle encore vivre ensemble à quelques mois de l'élection présidentielle? Et vous, racontez-nous votre mode de vie, 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Votre chronique, c'est Ma vie de parent, vers 11h moins le quart. Quel est le programme ?
Eh bien aujourd'hui, je vais tenter d'évoquer ce drôle de cocktail d'émotions qu'on peut ressentir face à l'adolescence de nos enfants.
À tout à l'heure Gwenaëlle, bienvenue dans Grand Main vous Face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, à lire et BI, Grand Bien vous Face.
C'est sorti, si on pouvait y aller le midi et le soir, on y allait au début. Dès qu'on avait un peu d'argent, c'était la sortie, c'était tacos.
J'ai goûté, je dis, ça c'est pas juste nous, tout le monde qui peut aimer.
Ils se sont dit, on va prendre une galette de blé et on va la farcir avec de la viande, des frites et une sauce maison.
Parce que c'est quand même une boule de gras au final. Mais bon, c'est bon, c'est ça, c'est ce qui est en fait bizarre.
Il avait l'ambition de créer un sandwich rapide, bon, pas trop cher, à la portée de tout le monde, qui changerait un peu de l'ordinaire et du kebab qu'on connaît depuis 50 ans.
J'ai envie de le week-end, à la sortie des bars, les gens ils vont chercher quoi, un tacos hein. Je vais au McDo, ils vont prendre un kebab, c'est un tacos.
Le tacos, l'un des symboles des changements de mode de vie des Français, des plus jeunes notamment. Nous vous expliquerons pourquoi en fin d'émission. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Slate, à l'Express. Vous êtes essayiste, spécialiste des modes de vie et des questions territoriales. Vous publiez au Seuil, avec le politologue Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie. Un ouvrage essentiel si on veut comprendre la France d'aujourd'hui. Bonjour Rémi Houdguiri.
Bonjour.
Sociologue, écrivain, essayiste, directeur adjoint du cabinet Sociovision, filiale de l'IFOP. Alors, Jean-Laurent Casselli, au terme de votre vaste enquête, vous êtes étonné par l'ampleur des mutations qui traversent notre pays depuis une quarantaine d'années, des mutations que l'on n'a pas forcément vues et qui étaient pourtant sous nos yeux.
Oui, c'est un petit peu le pitch de ce livre, n'est-ce pas ? La France sous nos yeux, elle est devant nous. On vit dedans quelque part depuis une quarantaine d'années, puisque notre propos consiste à parler de cette grande métamorphose qui commence dans les années 80 et se poursuit jusqu'à nos jours, à l'issue de laquelle on est entré dans ce qu'on appelle la France d'après. Alors c'est pas la France d'après le Covid, hein, comme on a pu la décrire, ce monde d'après un petit peu utopique dont parlaient les commentateurs, les intellectuels pendant la crise, pendant la pandémie. Pour nous, la France d'après, c'est une France qui est sortie des Trente Glorieuses, mais sans, si vous voulez, qu'on ait vraiment perçu l'ampleur des changements, effectivement, comme si ces fameuses Trente Glorieuses, dont on parle encore même dans cette pré-campagne présidentielle de 2022, comme si ces Trente Glorieuses étaient encore le point référent, en fait, de la société française, et que tout discours sur la société française avait comme maître étalon, comme point d'appui, ces fameuses années auxquelles certains voudraient revenir.
Il existe donc un décalage entre la carte de la France que nous avons en tête et la réalité du territoire national.
Oui, c'est notre thèse. Il est vrai que moi, pour répondre à votre question initiale, ça me surprend moins parce que on a passé 2 ans sur ce livre et c'est vrai que je l'ai encore relu ce matin avant d'arriver dans le studio, donc je finis par m'habituer au constat qu'on a établi avec Jérôme Fourquet, mon co-auteur. Mais il est vrai que les changements, si vous voulez, je dirais que ce qui est notable, c'est que ces changements concernent tous les domaines de la vie, toutes les dimensions, les infrastructures, le modèle économique, hein, ce modèle économique engendre de nouveaux types d'emplois, de nouveaux métiers, hein, de nouvelles figures, on pourrait dire sociales. Ces nouveaux modèles, ces nouveaux emplois ont aussi un impact sur la culture, sur les modes de vie, hein, on va en parler évidemment, et sur le territoire. Voilà. Alors, en résumé, que font les gens, dans quel domaine ils travaillent, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, est-ce qu'ils ont une télé, c'est un petit peu ça notre livre.
Rémi Houdguiri.
Oui, enfin, sur ce livre, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est l'écart entre ce que les gens ont en tête aujourd'hui. On est dans un pays très nostalgique, en fait. Hein. La France, nous, quand on mesure dans nos enquêtes le sentiment nostalgique, il est très élevé. Ce qui veut dire ce que vous décrivez, vous, à hauteur d'homme, comme vous dites plusieurs fois dans le livre, c'est une France, finalement, qui ne plaît pas aux Français. En tout cas, tel que vous la décrivez, c'est ça qui m'a frappé. Et je pense que ce qui est très intéressant dans ce livre, qui se lit un peu comme un atlas, c'est qu'on fait un petit peu le tour du propriétaire, c'est-à-dire on regarde un petit peu, on va un peu partout en France. Ça m'a fait penser, alors ça n'a rien à voir, mais c'est une référence littéraire. Je pense à Georges Perec et à son petit livre Tentative d'épuisement d'un lieu. Là, il y a une tentative d'épuisement de la France, c'est-à-dire d'arriver à complètement radiographier toutes les strates qui se sont accumulées depuis 40 ans, qu'on voit partiellement, on les voit en centre-ville, on les voit en périphérie, on les voit en banlieue, on voit ceci, cela, on voit pas tout, et là c'est restitué. Et comme je dis, ce qui est drôle, c'est que on vit dans un pays finalement qui est très divers, très multiple, et où il y a une nostalgie d'une unité disparue.
Alors dans ce livre, vous montrez, Jean-Laurent Casselli, les plateformes logistiques d'Amazon, la poussée démographique en direction de la façade atlantique, la multiplication des parcs de loisirs et des centres commerciaux, les influences culturelles américaines, les émissions de Stéphane Plaza, les boulangeries des ronds-points, les livreurs de sushis. Comment avez-vous procédé pour raconter cette France sous nos yeux, dont nous avons une expérience partielle, parcellaire, une France que l'on voit défiler en voiture, en train, et qui nous échappe parfois? Quelle a été votre méthode de travail?
Alors c'est vrai que l'approche de ce livre se veut originale et si vous voulez, met bout à bout plusieurs méthodes, plusieurs types de sources. D'abord, pour aller au plus classique, les sources statistiques, quantitatives, les données. Alors on va les puiser chez l'INSEE, dans le grand réservoir d'enquête IFOP, puisque Jérôme Fourquet est responsable du département opinion de cet institut de sondage. On est par ailleurs à les puiser ici ou là sur Internet, auprès de sources privées. Par exemple, je pense aux études de marché, aux études sectorielles. On a aussi tout un tas de très bonnes agences d'urbanisme dans les différentes villes françaises qui font un excellent travail. Je pense par exemple un graphiste sur l'évolution du nombre de cavistes à Paris, voilà, qu'on a trouvé dans la Pure, qui est l'atelier d'urbanisme parisien. Alors ça, c'est pour les sources plutôt quantitatives qui sont importantes, si vous voulez, pour donner du contexte au lecteur et pour pas qu'il s'en tienne à son impression et qu'il se dise « Ah ben voilà, il y a un tacos qui est ouvert à côté de chez moi. Est-ce que tout le monde mange des tacos? Est-ce que c'est minoritaire ?» Donc on a essayé de quantifier les tendances dont on parle. Ensuite, comme moi je suis journaliste, si vous voulez, on a voulu aller sur le terrain. On a voulu faire des remontées de terrain, être un petit peu, si vous voulez, faire des sortes de monographies. Alors on se déplace, par exemple à La Ciotat, à Biarritz, dans le Perche, à Paris, en banlieue, dans les Alpes, un petit peu partout. Alors ça peut être spécifiquement pour l'ouvrage, ça peut être au gré de nos pérégrinations, pendant nos vacances, pendant nos déplacements professionnels de tous ordres. C'est vrai qu'on a pris cette habitude d'avoir un petit carnet de notes et un smartphone pour prendre des photos, parce que l'aspect visuel et paysager est très important dans notre livre, et on essaie de documenter un peu comme des ethnographes de la France d'après tous ces changements.
Et vous avez puisé également dans la culture populaire, la télévision, la littérature aussi, qui est très présente.
Oui, c'est très important, j'ai oublié de le mentionner. En fait, on aime beaucoup recourir à la fiction. Alors ça peut être des romans comme le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, le prix Goncourt 2018, parce que c'est un roman qui parle d'une jeunesse des années 90, d'après l'industrie, dans un bassin désindustrialisé.
Irène Frein aussi.
Irène Frein, oui, qui a fait un très beau livre sur sa sœur qui a été assassinée en banlieue parisienne. Elle parle très bien justement de ce pavillonnaire, en fait, de la grande couronne et de ce qu'on y trouve en termes de commerce. Je crois même qu'elle parle d'un entrepôt de logistique. On recourt aussi aux célébrités de la culture populaire, de la télévision, des réseaux sociaux, parce qu'on trouve que ce sont des exemples qui souvent ont un impact très fort chez les gens. C'est pour ça qu'on parle par exemple de Stéphane Plaza, peut-être qu'on y reviendra, pour parler en fait du poids qu'a pris l'immobilier et le cadre de vie dans le quotidien des Français.
Rémi Houdguiri.
Oui, et puis je rajouterais, une des particularités de ce livre, c'est la cartographie. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est vraiment ce qui apporte une valeur ajoutée, parce que ça permet tout de suite de voir des écarts énormes dans notre pays, entre les territoires, entre les régions, à l'intérieur des villes. Et donc je pense qu'effectivement la France sous nos yeux, c'est aussi des cartes qui nous permettent de nous rendre compte des contrastes énormes qu'il y a dans notre pays aujourd'hui.
Oui, merci Rémi de le souligner, de cartes de Mathieu Garnier et de Sylvain Monternac que je cite pour leur excellent travail.
Alors Jean-Laurent Casselli, ce que vous montrez dans votre livre avec Jérôme Fourquet, c'est la brutalité tout de même qui a accompagné la grande métamorphose que vit notre pays depuis une quarantaine d'années.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que peut-être que si on repart dans l'ordre, en fait, des constats qu'on fait, on va peut-être partir de l'infrastructure et du modèle économique, puisque le constat clé, c'est de montrer que après la désindustrialisation, qui est un phénomène connu, qui s'est enclenché dès les années 60-70, mais qui s'est en fait amplifié jusqu'à nos jours, on continue à fermer des sites industriels presque quotidiennement. En fait, la société française s'est réorientée vers un modèle plutôt orienté client et orienté consommation. C'est-à-dire que les consommateurs sont, par leurs achats au supermarché, leur renouvellement de voitures, les travaux qu'ils font dans leur maison, les voyages, les restaurants qu'ils fréquentent, sont devenus eux-mêmes une source de richesse. Donc on a ce système un petit peu qui tourne en boucle, dans lequel les gens prennent des loisirs, sortent de chez eux, renouvellent leur frigo, et c'est quelque chose qui est devenu assez central, au point que si vous voulez ce que voit par exemple l'habitant du pays de la France d'après quand il est en voiture, ce sont les fameux ronds-points dont on a beaucoup parlé pendant la crise des gilets jaunes, qui sont le fruit la conséquence de l'étalement urbain à la fois résidentiel et aussi commercial, et puis également des camions. Si vous prenez l'autoroute, oui, vous voyez que ça tout le temps, voilà. Il y a même des gens qui roulent le dimanche justement pour avoir moins de camions, et pourquoi? Parce que ces camions, eh bien, tout simplement, acheminent les marchandises vers les centres commerciaux, vers les supermarchés où vous faites vos courses, ou les apportent chez vous dans le cas du e-commerce et d'Amazon.
Et oui, nos modes de vie sont tout de même modelés en grande partie par la grande distribution. Les premières grandes surfaces remontent aux années 1960, création de Carrefour en 1960, d'Auchan en 1962, ouverture du premier hypermarché en 1963. Vous vous intéressez à la stratégie d'Intermarché, créée en 1960. À l'occasion d'une scission avec le groupe Leclerc, Intermarché qui compte environ 1800 magasins. Quelle a été leur stratégie d'implantation? Intermarché a épousé, c'est fascinant quand vous l'écrivez, a épousé la carte séculaire des foires et marchés dans les villages et dans les bourgs.
Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, quand vous vous déplacez en France, dans le moindre petit bourg, vous allez trouver un Intermarché. On a utilisé cette enseigne parce qu'on a pu obtenir les données de leur évolution. Et c'est vrai qu'il est frappant de constater que dans les années 80, il y a, je crois, quelques centaines, à peine, j'allais dire, d'Intermarché. Et que 20 ans, 30 ans plus tard, vous en avez un tous les 17 kilomètres en moyenne, jusqu'à couvrir les petites agglomérations de peut-être des bourgs de 3-5 000 habitants avec un bassin de 10, 15, 20 000 habitants autour. Récemment, je suis passé à Cahors, et une ville de 22 000 habitants, je crois. Et c'est assez impressionnant de voir, vous avez une entrée de ville, qui est la fameuse entrée de ville qu'on a partout en France, de voir le nombre d'équipements et le raffinement, même, je dirais, des équipements commerciaux pour une ville de cette taille. Vous avez, bien sûr, des hypermarchés de toutes sortes, un Leclerc, un Carrefour, et les galeries commerciales qui vont avec. Mais vous avez aussi un magasin de sport, vous avez deux ou trois salles de gym, des boulangeries de ronds-points, un Maison du Monde, enfin, bon, voilà. Donc je veux dire, c'est au-delà de l'exemple d'Intermarché, ce qu'on observe, c'est que la grande distribution a maillé tout le territoire, d'abord la périphérie des grandes villes, puis des villes moyennes, puis des plus petites villes. En fait, tant qu'il était possible de trouver des clients, au point qu'aujourd'hui,
Et toutes ces enseignes ont profondément remodelé le paysage et l'esthétique du territoire national. D'ailleurs, il y a quelques années, Télérama avait titré, et c'était retentissant, avait titré « La France moche ».
Oui, alors il y a un gros débat depuis 10 ans chez les gens qui travaillent sur la ville et l'urbanisme autour de cette formulation, que moi j'aime bien et qu'on a repris à notre compte dans le livre, parce qu'elle a le mérite de frapper les esprits, en fait. Et alors après, il faut quand même rappeler que cette France dite moche, c'est la France donc des périphéries, c'est la France de l'urbanisme commercial, donc des centres commerciaux, des fameux entrepôts logistiques, d'une partie des lotissements un petit peu bas de gamme qu'on a produit à la chaîne. Il faut aussi voir que c'est là où réside une partie partie de la population. Mmh. C'est là aussi où on fait nos courses et c'est là aussi où, si vous voulez, on fournit en fait aux citadins de quoi se vivre. Et donc on peut pas, enfin, la tentation est forte de se limiter à la France belle et de vouloir vivre dans une France uniquement paysagère, touristique et apprêtée. Mais il y a aussi une sorte de back-office, en fait, une France des coulisses, de l'ombre, qui sert justement à ce que les parties du pays les plus désirables continuent à tourner.
Rémi Hudguéry.
Oui, et puis c'est au-delà de ces critères esthétiques, en effet, c'est aussi la France du consumérisme. C'est en réalité, avec la grande distribution, c'est déployer un modèle en dehors des villes, qui a dévitalisé d'ailleurs, vous le montrez très bien, le cœur des villes, et qui a donné lieu à de nouveaux modes de vie où la consommation, ça devient le principal loisir. Je pense que depuis 40 ans, ce qui est en train de se produire en France, et ce qui s'est produit un peu plus tôt aux États-Unis, mais finalement c'est une forme d'américanisation, c'est que finalement, pour beaucoup de gens, le loisir principal, on le voit très bien dans nos enquêtes, c'est le samedi, dimanche, aller dans les centres commerciaux, y passer du temps. Il y a tout est fait d'ailleurs pour faire des consommateurs des captifs, c'est-à-dire y manger, y prendre une glace, y regarder des films, y acheter éventuellement. Il y en a qui n'achètent rien d'ailleurs. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que nous, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans les centres sans rien acheter en réalité. Et ça veut dire qu'ils ne sont là que pour passer le temps. Et je pense que ça, c'est une des grandes évolutions de ce que vous appelez la France d'après, c'est-à-dire une France hyper consumériste.
Et d'ailleurs, vous montrez ce nouveau type d'espace commercial qui est apparu depuis quelques années, le village de marque, qui oscille entre le centre commercial et le parc d'attractions. C'est un lieu clos sur lui-même où on déambule à ciel ouvert. Ce sont même des destinations à part entière. Ce sont des parcs à thème. Et d'ailleurs, l'un des plus importants, la Vallée Village, se situe à une station de RER de Disneyland Paris. Hein.
Oui, comme vous l'avez dit, ce sont des parcs à thème de la consommation, avec d'ailleurs souvent, au-delà des boutiques, une offre de restauration, parfois même des événements festifs ou culturels. En tout cas, ce sont des destinations un peu particulières parce qu'elles n'attirent pas juste les clients, les habitants qui habitent à 5 ou 10 kilomètres alentour comme les centres commerciaux, mais elles ont vraiment vocation à avoir une attractivité régionale, voire frontalière dans certains cas. Ce sont vraiment ce sont des lieux dans lesquels on va. Voilà, on se rend dans un village de marque
qui parodie d'ailleurs l'architecture de la région qui les accueille. Vous vous demandez d'ailleurs si ces villages de marque sont un lot de compensation pour les territoires périphériques.
Mais c'est vrai que le village de marque, c'est un petit peu comme l'entrepôt Amazon. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'on va l'implanter autour de chez vous, il y a deux réactions. La première, qui était celle des années 90-2000, enfin pour Amazon qui n'était pas encore chez nous, c'était plutôt oh là là, chouette, des emplois, justement pour compenser le fait que l'usine du coin a fermé. Et si vous voulez, de plus en plus, les élus et les riverains, les habitants, ce qu'ils voient aussi, c'est la question des nuisances routières. Parce que quand vous implantez un entrepôt autour de chez vous, ça fait quand même pas mal de passages de camions. Et c'est vrai aussi des centres commerciaux de manière générale, parce que il y a des flux d'automobilistes qui viennent faire leurs courses et des camions qui viennent acheminer les marchandises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les territoires sont un petit peu à la croisée des chemins. Certains continuent à développer en fait leur périphérie et d'autres disent là, ça suffit.
Rémi Hudguéry.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce modèle que vous décrivez, que vous dites la France d'après, finalement, il est lui-même à bout de souffle, en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que avec les nouveaux sujets que sont le réchauffement climatique, la question des inégalités, etc., ce modèle ne tient plus. Et je pense dans l'actualité récente à Europa City, vous rappelez, qui est un peu l'aboutissement de ces évolutions. Ça aurait dû être le couronnement de la France d'après. En fait, Europa City, ça n'a pas eu lieu parce que, je rappelle, Europa City, c'était un énorme complexe qui mêlait consumérisme, loisirs qu'on voulait faire à quelques kilomètres de Paris et ça s'est pas fait parce que c'était considéré comme plus du tout en phase avec les tendances de notre époque. Donc cette France d'après, elle est en train peut-être, ça serait intéressant, mais elle est peut-être en train de, non pas de mourir, mais en tout cas, elle est en très grande difficulté actuellement.
Alors loin de la France des grandes surfaces, des villages de marque, des entrepôts de logistique, on retrouve ce que vous appelez, Jean-Laurent Casselli, la France AAA. AAA en référence au système des agences de notation. C'est une France désirable. À quoi elle ressemble, cette France AAA?
Elle a plusieurs visages parce que, si vous voulez, elle regroupe tous les quartiers, les communes, les lieux dans lesquels on a envie de vivre. Et on s'est rendu compte qu'avec... alors, c'est un phénomène intéressant dans l'après-confinement, la généralisation du télétravail, pas à l'ensemble de la population bien sûr, mais aux cadres, aux professions intellectuelles, à des gens qui peuvent être mobiles, a ouvert la possibilité d'habiter relativement loin de son lieu de travail, en tout cas plus loin que lorsqu'on était dans la banlieue, dans la couronne pavillonnaire, qu'on devait aller tous les jours en voiture ou en train ou en RER travailler. Donc c'est ouvert une sorte de compétition sur le marché immobilier, qui n'est plus une juxtaposition de petits marchés immobiliers très localisés, mais une vaste carte en fait de la France, dans laquelle, si vous voulez, quelque part, chacun a envie d'habiter dans les meilleurs endroits, en fait, dans les meilleurs spots. Donc, ça peut être les littoraux. On voit la ruée des Parisiens, hein, qui affolent les agences immobilières et les locaux, que ce soit sur le littoral breton, Biarritz, vendéen, que ce soit à Biarritz, sur la côte basque, et que ce soit à Bordeaux, bien évidemment, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. On le voit également avec le phénomène de gentrification, hein, le fait que dans les grandes villes, en fait, beaucoup de gens cherchent à se loger parce que c'est là aussi que ils trouvent de bons emplois, notamment quand ils sont plus jeunes et qu'ils peuvent pas encore se permettre justement de s'éloigner en télétravail, et donc ils sont obligés d'être connectés aux métropoles. Et on voit que la concurrence, en fait, pour les bonnes places, quelque part, pousse les plus jeunes générations à aller se mettre un peu plus loin, soit dans les quartiers plus populaires de la ville centre, soit dans les banlieues, hein, qui étaient très redoutées, dans lesquelles une génération avant on n'aurait pas habité, on n'aurait pas franchi le périph, par exemple, pour prendre l'emblématique exemple parisien. Et c'est vrai que ça, c'est une nouveauté, le fait que, si vous voulez, chaque Français compose entre son idéal résidentiel et la concurrence, en fait, de ses voisins, quelque part.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez donc cette France AAA que l'on peut retrouver sur le réseau Instagram, où on se partage les photos des villes les plus désirables. Et puis, il y a cette France de l'ombre, back-office, comme vous disiez tout à l'heure, entre gris clair et gris foncé. Ces deux France qui cohabitent aujourd'hui.
Oui, on a illustré ce nuancier de couleurs par une carte qu'on aime beaucoup, qui est une carte, en fait, de la désirabilité des communes, qu'on approche par le nombre de requêtes sur le site Wikipédia rapportées au nombre d'habitants. Et en fait, en établissant cette carte, on se rend compte que regardent les gens, les internautes, donc on pourrait en déduire que c'est là où ils veulent habiter, en tout cas ce sont les villes qui les intéressent. Eh bien, ce sont les grandes villes, les villes centres, au détriment de certaines couronnes périurbaines qui sont dans l'ombre, dans lesquelles on dit, vous savez, les villes on dit, bah là-bas, oui, j'habite dans tel coin, bon, ok, c'est tranquille, mais il n'y a rien à faire, quoi. Ça, c'est la France de l'ombre. C'est aussi la France des banlieues populaires. Dans la région parisienne, on voit que l'Ouest est beaucoup plus regardé que le Nord-Est. C'est aussi la France rétro-littorale, hein, qui est à quelques dizaines de kilomètres des littoraux, donc qui est jugée moins intéressante. Voilà, ça aussi, c'est la France de l'ombre.
Rémi Hudegiri.
Oui, il y a une polarisation territoriale qui s'est produite et qui se traduit quand on interroge les gens par le sentiment d'être relégué dans l'ombre. Comme vous l'avez dit, il y a un déclassement quand même, parce que ces 40 dernières années, un des phénomènes marquants aussi dans la population, c'est qu'il y a une partie de plus en plus importante, vous en parlez d'ailleurs, qui se sent mise à l'écart et déclassée. Et ça, c'est un des effets de ces évolutions.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse à l'idéal de la maison individuelle avec jardin, influencé par les émissions télévisées de Stéphane Plaza. En attendant, on écoute Jacqueline Taïeb, 7h du matin.
Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge?
Jacqueline Taïeb, 7h du matin.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
10h32 et on s'intéresse ce matin au nouveau mode de vie des Français avec le journaliste Jean-Laurent Casselli et avec le sociologue Rémy Guiry. Toutes vos questions et vos réactions au 01 45 24 7000.
C'est l'habitat plébiscité par les Français, le pavillon et son bout de jardin. En briques et ardoises dans le nord ou avec ses tuiles dans le sud-ouest, 63% des Français habitent aujourd'hui une maison individuelle et 75% y aspirent. Mais pour la ministre déléguée au logement, ces maisons sont devenues
une impasse écologique, économique et sociale.
Car ces lotissements sont souvent mal desservis, obligés à prendre la voiture et contribuent à supprimer des terres agricoles. Peut-être, mais ceux qui y habitent ne se verraient plus vivre ailleurs. Il y a 4 ans, Charlie Castille a quitté son appartement parisien et acheté cette maison à Fuveaux, à 30 km de Marseille, avec sa femme et ses 2 enfants.
On avait besoin de verdure, on avait besoin d'avoir un jardin, de pas être mitoyen. On est quand même beaucoup plus serein. On aurait été en centre-ville, on n'aurait pas laissé les enfants jouer sur le trottoir devant la maison.
Extrait du JT de 20h de France 2 du 18 octobre dernier. Jean-Laurent Casselli, je rappelle que vous publiez La France sous nos yeux et vous vous intéressez donc à l'idéal de la maison individuelle avec jardin, récemment dénoncé, on l'a entendu, par la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon, qui habite elle-même dans une maison. Rappelons que c'est un modèle majoritaire en France et un rêve pour de nombreux Français.
Alors nous, dans le livre, on insiste sur l'aspect majoritaire du rêve, justement, de l'idéal. C'est pas, si vous voulez, c'est à peu près un Français sur deux habite en appartement et donc l'autre Français sur deux habite en maison. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'il y a que des maisons sur le territoire français. Il faut pas oublier les citadins. Mais dans les sondages, quand on demande aux gens où est-ce qu'ils aimeraient habiter, vivre, très majoritairement, entre les 2/3 et les 3/4 disent en maison. Voilà. Ils vont pas vous dire dans un pavillon, dans un lotissement, hein. Mais en tout cas, l'idéal de la maison avec son espace, son jardin pour les enfants, avec possibilité d'avoir un barbecue pour inviter les amis le week-end, éventuellement une piscine. Ça, c'est effectivement, c'est l'idéal français depuis les années 80 et encore aujourd'hui. Ouais.
Alors, dans votre livre, vous appelez cet idéal l'idéal plaza majoritaire, en référence aux célèbres émissions de Stéphane Plaza sur M6. Cet idéal, on retrouve dans cet idéal le mode de vie, un mode de vie qui est lié à la déco intérieure, à la culture du jardin. C'est ça, grosso modo, Jean-Laurent Casselli.
Bah, c'est vraiment ce que Vincent Coquebert appelle la civilisation du cocon, c'est-à-dire l'importance du recentrage sur la vie de famille, donc l'amélioration de des différentes pièces de son intérieur, c'est un rêve français qui court depuis plusieurs décennies. Mais c'est vrai que le confinement, hein, voilà, l'a encore évidemment renforcé, d'où le fait que les enseignes de bricolage soient de plus en plus populaires. C'est vrai que dans une société dans laquelle on croit plus vraiment au grand soir et dans laquelle la pratique religieuse aussi s'est effondrée en partie, le manque de collectif, le manque d'idéal communautaire ou politique fait que les gens ont tendance à se réfugier aussi sur ce qu'ils connaissent et ce dans quoi ils sont bien. Et le foyer, que ce soit l'appartement ou la maison, c'est une sorte d'espace refuge.
Mais quelle est la différence entre cette France de Stéphane Plaza et la France pavillonnaire des années 70-80?
La différence, c'est que, si vous voulez, le niveau de confort a eu tendance à s'accroître dans différentes catégories sociales. Hein, alors on reprend les termes des agents immobiliers, des émissions de Stéphane Plaza, la suite parentale, le double canapé,
la salle de bain privative avec douche à l'italienne et double vasque.
Tout à fait, voilà le running gag des émissions de Stéphane Plaza. Donc en fait, derrière cet idéal, si vous voulez, il y a quand même l'idée du confort en fait, mais aussi, je pense, de la sécurité, voilà, c'est-à-dire d'être bien quelque part.
Et dans cet idéal, on est loin de la tradition, des matériaux anciens, de la brocante plébiscitée par une autre partie des Français.
Alors, les deux peuvent cohabiter, mais il est vrai
Je schématise. Hein,
mais... Voilà, il est vrai que il y a quand même un attrait pour le neuf, en fait, dans la maison individuelle. C'est aussi parce que souvent c'est moins cher et c'est plus pratique pour beaucoup de gens que de retaper, alors effectivement, une vieille ferme ou, voilà, d'habiter dans un habitat qui a peut-être plus de charme, qui est jugé plus authentique, mais qui est, on va dire, moins confortable.
Rémi Houdguéry.
Oui, et là aussi, c'est en train de changer. C'est-à-dire que ce que vous décrivez est en train de muter en ce moment même. C'est-à-dire, vous avez parlé du confinement. Mais par exemple, effectivement, la maison depuis les années 80, c'est un cocon depuis les périodes de crise. Mais maintenant, ça devient aussi une bulle hyperactive. C'est-à-dire, on fait de plus en plus de choses à la maison. D'abord, ceux qui y travaillent, et il y en a de plus en plus. Mais on y rapatrie pas mal d'activités qu'on avait eu l'occasion de faire à l'extérieur avant. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, il y a un deuxième élément qui arrive, c'est la connexion également, qui est ça fait des années qu'on parle de domotique, de maison connectée. C'est un concept qui a du mal à s'imposer parce que les gens ont peur de ça. Enfin, ils ont l'impression que leur maison va devenir un espion de leur vie privée. Mais quand même, ça aussi, on sent que, je pense à la sécurité notamment, ce cocon-là, il faut le sécuriser. Et ça va passer de plus en plus, ça passe déjà... Ah, c'est une évolution très récente, pas de la sécurité connectée à distance.
Passion des Français pour la piscine, Jean-Laurent Casselli. Comment expliquer cet incroyable attrait pour la piscine au-delà de ses vertus rafraîchissantes ?
Alors, on pense que ce qu'il y a derrière la pool party, hein, l'après-midi piscine, c'est le fait de pouvoir sélectionner les participants, d'inviter famille, amis proches.
Et de contourner la piscine municipale, la plage publique, composée d'une population qu'on ne choisit pas.
Oui, voilà, là, il y a encore une fois, dans cet exemple de la piscine, il y a une rétraction de l'espace public, de l'idée qu'on maîtrise en fait son environnement individuel, sa maison, sa propriété. Et c'est vrai qu'on a vu la piscine, si vous voulez, quelque part se répandre, se diffuser dans des strates de population, alors que c'était plutôt un équipement élitiste, hein, dans l'imaginaire qu'on en a. Aujourd'hui, il y a des piscines hors sol, il y a des petits bassins gonflables. Enfin, il y a toutes sortes en fait de versions qui permettent à des Français de différents niveaux socio-économiques, je dirais, d'accéder à ce rêve. De même que, pour prendre un exemple qui va dans l'autre sens, le barbecue, qui était plutôt populaire en fait que dans la pratique, est monté en gamme, c'est premiumisé. On trouve aujourd'hui des barbecues à 500, 1000, voire 1500 euros. Voilà.
Alors Jean-Roch Casselli, vous êtes intéressé au style de vie et aux pratiques de consommation d'une classe moyenne qui, je vous cite, se démoyennise. Expliquez-nous ce barbarisme.
Alors j'ai commencé à employer d'autres mots barbares type premiumisation.
Oui.
En fait, alors ça c'est, il faut faire un détour par le marketing en fait. C'est vrai que dans une société de consommation dans laquelle les références de produits se multiplient, on a assisté à ce qu'on appelle un approfondissement des gammes. C'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas juste une voiture bleue, jaune ou grise, vous avez plusieurs types de voitures, plusieurs types d'options. Voilà. Et en fait on retrouve ça pour la maison, on le retrouve pour le barbecue, mais on retrouve aussi dans tous les secteurs en fait de la consommation. On l'a vu par exemple dans la grande distribution, le grand magasin, l'hypermarché en fait, qui a un héritage des années 70-80. Est toujours là, bien entendu, hein, quand on parle de crise de l'hypermarché, il faut relativiser, parce que la majorité des Français continuent à s'y rendre, au moins une fois par semaine, mais on a vu apparaître des formats plus spécifiques. Par exemple, si je prends le bas de des magasins qui s'adressent au bas de la classe moyenne, le cas du hard discount, les Lidl, Aldi, arrivent sur le territoire français à partir de la fin des années 80, du début des années 90. Pourquoi ? Parce que ils répondent aussi à une partie de la classe moyenne qui n'arrive plus à suivre et leur proposent une version, on va dire, d'entrée de gamme de produits de grande consommation. De l'autre côté, à l'autre bout du spectre social, on a vu des magasins bio ouvrir, des enseignes bio, puis les généralistes, hein, les Carrefour, les Auchan et autres, ont eux-mêmes fait leur propre magasin bio. Voilà. Donc là, on a eu une montée en gamme quelque part d'une partie de la consommation.
Et cette vaste classe moyenne ressemble de plus en plus à un sablier.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, l'image qu'utilisaient les sociologues dans les années 80, c'était la toupie. Pourquoi ? Parce que la toupie a un gros ventre avec plein de classes moyennes et un petit peu de pauvres en bas et un petit peu de riches au-dessus. Et le sablier, c'est l'inverse. Voilà, le sablier, il reste de moins en moins de gens au milieu et vous avez une sorte de polarisation en fait, en fonction des lieux où vous allez consommer et de votre pouvoir d'achat.
Tiens, prenons un produit bien connu pour bien comprendre cette démoyennisation. On consomme donc des versions différentes des mêmes produits, exemple avec le burger. Oui. D'un côté, on peut avoir le maxi best-of de McDo à 6,90€, et de l'autre côté du spectre, le menu hamburger de Big Fernand à 18€.
Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que facialement, de loin, vous avez l'impression que c'est la même chose. C'est un hamburger, hein. Mais vous en avez plusieurs versions de différentes qualités, évidemment, avec différents types d'ingrédients, pas cuisinés de la même manière. Et vous allez même aller jusqu'au burger de chef étoilé à, je sais pas, à 35€, par exemple. Mmh. Donc, on voit aussi ça dans les produits de consommation assez simples, assez courants, comme la bière. Voilà, vous avez toujours les grandes marques industrielles avec le pack de 6 bières, je sais pas, à 5€, et puis vous avez des bières de microbrasserie à 3€ l'unité. Quoi.
Le pain, exemple avec le pain qui découpe une France en deux, boulangerie de Rond-Point et néo-boulanger de centre-ville. Les boulangeries de Rond-Point avec leur parking et leur promotion 3 baguettes achetées pour une offerte. Et puis de l'autre côté, des boulangeries premium, des néo-boulangers qui proposent des baguettes tradition à 1,20€ ou à 1,30€. Quoi.
Oui, ou voir qu'ils ne font plus de baguettes en fait, parce que quand vous entrez chez un néo-boulanger, la première chose qu'il vous dit c'est « je ne fais pas de baguettes généralement ». Ça m'est encore arrivé avant-hier. C'est les drames de la premiumisation. Et en fait, on aime bien cet exemple de la boulangerie parce que, si vous voulez, il montre à la fois la polarisation, plusieurs versions du même produit, en fait, hein, et aussi la spécialisation territoriale. C'est-à-dire, ces versions différentes sont vendues dans des portions différentes du territoire.
Hein. Petit détail, expliquer premiumisation, ce barbarisme.
Bah, en fait, c'est du jargon marketing pour c'est parler du haut de gamme. Voilà, c'est ça, c'est la version haut de gamme des produits.
Allez, dans un instant, on s'intéresse à la culture américaine qui imprègne plus que jamais nos styles de vie. Mais en attendant, il est temps de retrouver Ma vie de parent de Gonel Boulet.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Gonel Boulet, on dit souvent que l'adolescence des enfants entraîne des crises à la maison, mais vous, ça vous rend aussi chouchoune. Je ne sais pas ça, chouchoune.
Vous connaissiez pas chouchoune,
non, pas
oui.
Tout.
Parfois, moi, quand je regarde mes enfants grandir, je me sens un peu chouchoune. Enfin, tristoune, nostalgique, quoi. Après plusieurs années passées dans les couches, la course au sommeil et des questionnements aussi prosaïques que sein ou biberon, pouce ou tétine, foot ou escrime, l'ado qui surgit presque d'un coup dans votre vie vous propulse soudain 30 années en arrière et vous confronte à votre propre jeunesse définitivement perdue. Ah, les camps de vacances, les premières boumes, les papillons dans le ventre et les premiers baisers. N'est-ce pas, Ali, que vous voyez ce dont je veux parler?
Ah oui, je me souviens. Justement, mon premier slow, c'était sur la boum, la colonie d'Antichamps des Frontignes en 1986.
Et ça, c'était bien terminé?
Non, j'ai pris un râteau.
Oui, alors voilà, je sais pas vous, mais moi, parfois, j'aimerais tirer un ticket gagnant pour une deuxième vie. Le droit de rejouer, un peu comme dans les jeux vidéo, revivre l'excitation des premières fois et des découvertes tous azimuts. Revivre ce goût démesuré du présent et l'insouciance de l'avenir. Ressentir l'impression floue mais si juste que tout est possible. Retrouver à nouveau la force des amitiés à la vie à la mort. Car même si la vie d'adulte est souvent, oui, pleine de surprises, de satisfactions, de rencontres et de joie, la jeunesse, quand elle s'est bien passée, nous laisse quand même un sacré goût de reviens-y.
Et malheureusement, Gonel, la machine à remonter le temps n'existe toujours pas.
Hein. Et non. Mais à bien y réfléchir, c'est peut-être pas plus mal. Car l'adolescence n'est pas non plus un long fleuve tranquille, loin de là. Et si je vous dis bagodant, acné, trouille d'être rejeté, leçon de techno, physique, chimie, anglais, espagnol, maths, histoire, géo à apprendre par cœur, roman médiéval à lire pour lundi, les petits poils qui poussent un peu partout qu'on peut pas encore épiler, le footing obligatoire dans la cour tous les mardis, le bulletin scolaire à chaque trimestre, le stress de pas pouvoir aller à la soirée à laquelle tout le monde est invité, l'identité sexuelle à trouver, l'amoureux qui vous passe encore sous le nez.
Bon, bref. Vu sous cet angle, Gonel, c'est un âge que l'on n'est pas forcément fâché d'avoir quitté. Hein.
Oui, voilà pourquoi. L'autre jour, avec ma meilleure amie, alors que nous observions du coin de l'œil un charmant charpentier sur le chantier médiéval de Guédelon, oui, parce que quand on est parent, bon, bah, on va plus en boîte le samedi soir depuis longtemps, hein. On visite des châteaux sous la pluie le dimanche, hein, c'est plus vivifiant. Donc, avec mon amie Anne, nous en arrivions à la conclusion que ce qui serait génial, en fait, ce serait d'avoir le droit de revivre notre jeunesse, mais avec notre expérience d'aujourd'hui. Cela nous permettrait, par exemple, d'éviter quelques erreurs du type embrasser le premier venu du collège juste parce qu'on veut apprendre à tourner la langue dans le bon sens, ou trouver plus vite notre limite d'alcool en soirée, par exemple. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que nos ados, comme nous à leur âge, vivent tout cela à leur tour pour la première fois. Et que cela implique que eux aussi commettent leurs propres erreurs, leurs propres excès. Alors face à ça, nous parents sommes tiraillés entre un désir immense de protection et une forme de plaisir ou de jalousie, ça dépend des moments, à aller voir vivre ce qui nous échappe désormais pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de mieux ? Eh bien qu'il ne leur arrive rien, tout en leur souhaitant quand même qu'ils vivent tout ça avec l'intensité de la jeunesse.
Ah, vous, me revient à l'esprit les soirées lycéennes, à la ferme des 50 à Ramonville-Sainte-Anne. Ça n'intéresse personne, mais ce souvenir revient là d'un coup. Grâce à vous, Gonelle Boulet, on peut écouter, réécouter, partager votre chronique Ma vie de parent sur l'appli France Inter. Il y a un mail où on peut vous joindre, si on peut vous donner des idées.
Mais bien sûr, continuez à m'écrire gwenaëlle.boulet@radiofrance.com.
Gwenaëlle avec deux L. Hein,
un W, deux L.
Voilà, exactement. Allez, dans un instant, on s'intéresse à l'américanisation de nos modes de vie. En attendant, on écoute Michael Kiwanuka, Beautiful Life.
Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heart.
Beautiful Life.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h50 et on s'intéresse ce matin au nouveau mode de vie des Français avec le journaliste Jean-Laurent Casselli, avec le sociologue Rémi Houdguéry. Toutes vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000. Alors Jean-Laurent Casselli, avec Jérôme Fourquet, à la manière des géologues, vous avez identifié différentes strates qui racontent nos styles de vie. Intéressons-nous d'abord à la couche américaine. Nos sociétés se sont américanisées depuis les années 50 avec une accélération dans les années 80-2000. Qu'est-ce qui se passe en ce moment du point de vue de cette américanisation ?
Alors, on peut parler déjà du tronc commun d'américanisation, hein, qui commence dans les années 80 avec l'exemple mythique, j'allais dire, de McDonald's. McDo débarque en France à la, d'abord dans les années 70. Ils échouent, ils repartent et ils reviennent fin 70, début 80. Je crois que c'est à Strasbourg. Et là, rapidement, si vous voulez, dans les années 80-90, ils commencent à mailler le territoire de leur restaurant jusqu'à arriver, on retrouve un peu ce qu'on disait sur Intermarché au début, jusqu'à arriver dans presque des villages en fait, hein, en tout cas dans des petites agglomérations. Et aujourd'hui, on peut dire que dans les études, hein, d'opinion, à peu près tout le monde va au McDo. Voilà. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les catégories populaires, moyennes. Voilà. C'est ça, je dirais, c'est l'américanisation un peu de toute la société française. Et puis ensuite, vous avez des segments, des options américanisation qui sont plus ou moins, qui séduisent plus ou moins des catégories de population française. Exemple, la country.
Alors, tiens, écoutez. Dolly Parton. Parce que sur la country, Jean-Laurent Casselli, il y a un engouement que je méconnaissais. La dance country en France, il y a 9% de la population qui pratique cette danse en club ou dans une association. 9%.
Oui, on a recensé à peu près 2000 clubs et associations, hein, ce qui est quand même pas rien. Alors pourquoi on a l'impression que ça n'existe pas, pourquoi on n'était pas au courant? Je dis nous, les journalistes, hein, les experts, les observateurs, les sociologues, parce que c'est vrai que c'est on va dire culturellement assez loin de ce qu'on connaît, à la fois en termes de folklore, de culture, mais aussi en termes de territoire, puisque on s'est rendu compte que ces clubs étaient plutôt maillés plutôt le territoire des périphéries, des zones rurales. Et c'est amusant parce que c'est un petit peu la même population aux États-Unis qui s'adonne à la danse country.
Que raconte cet engouement pour la danse country?
Alors, il raconte déjà la fascination qu'exerce la culture Far West, en fait, le mythe américain. On l'a vu aussi avec le décès de Johnny Hallyday, par exemple, à quel point il avait su jouer de ça avec sa moto, avec ses road trips aux États-Unis, avec ses amis. Voilà, donc il y avait vraiment une fascination d'une France populaire, je dirais, pour l'américanisation. Et on s'est rendu compte que c'était le cas aussi dans d'autres segments de la société.
Rémi Houdguéry, sociologue.
Oui, sur l'américanisation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie polarisation aussi. Si on prend McDonald's dont vous avez parlé, on est un des pays qui déteste, enfin dans les enquêtes, où les gens nous disent qu'ils détestent le plus McDonald's, et on est aussi le pays où McDonald's réussit le mieux en fréquentation. Autre exemple, c'est Amazon, nouvelle bête noire de beaucoup de Français. Il y a 25% de Français qui nous disent « je refuse d'acheter sur Amazon ». Et en réalité, quand on regarde nos chiffres, une partie non négligeable des Français achète sur Amazon. Donc il y a un double discours en France qui est intéressant, qui est en fait un reflet de cette américanisation. Plus elle est forte, plus elle suscite en réaction de la critique.
Et comment expliquer l'attrait pour la pole dance, cette discipline qui mêle danse et acrobatie autour d'une barre verticale, une discipline à l'origine pratiquée par les stripteaseuses?
Alors c'est vrai que la pole dance, comme d'autres pratiques, en fait, nous viennent des États-Unis aussi par les médias, par les séries, par les films et par les magazines. Et du coup, c'est vrai que voilà, la société française a tendance à absorber ces tendances de manière plus ou moins harmonieuse et toujours avec sa petite touche. C'est-à-dire, je repars du hamburger. Clairement, pourquoi les Français mangent énormément de hamburger au point d'avoir détrôné le jambon beurre, c'est parce qu'on a quelque part francisé le hamburger. Voilà, on n'a pas juste recopier la recette américaine, et c'est souvent le cas avec les traditions qui nous viennent d'ailleurs dans la globalisation.
Alors la France s'est fortement américanisée, mais elle a également subi d'autres influences internationales. Vous évoquez dans votre livre le kebab, la chicha, influence orientale. Vous intéressez, on l'a entendu au tout début de l'émission, au tacos, qui c'est un ovni culinaire, une hybridation culturelle et culinaire. Ce tacos, racontez-nous, qu'est-ce qu'il dit de la France et de nos styles de vie?
Le tacos, c'est le dernier étage en fait de ces couches en fait culturelles qui se déposent.
Rappelez ce que c'est peut-être.
Alors oui, c'est important pour les auditeurs qui ne. Alors c'est vrai que le tacos, c'est un produit très générationnel. Il plaît vraiment aux plus jeunes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tacos? Alors d'abord, un tacos français, ou French tacos. Ça n'a rien à voir avec un tacos mexicain, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est une galette de blé dans laquelle on met une ou plusieurs viandes, une sauce fromagère, des légumes. Voilà. Et si vous voulez, on met tout ça au grill, façon panini. Donc vous vous retrouvez entre quelque chose qui ressemble à un burrito, un panini et un petit peu un kebab. Voilà.
Mais qu'est-ce que ça raconte, le tacos?
Ça raconte justement une hybridation de toutes les traditions culinaires qui sont arrivées en France. Et ça raconte en fait une France plongée dans la globalisation. Parce que le tacos, il faut rappeler que ça vient de la banlieue lyonnaise ou grenobloise. Voilà, il y a un débat, il y a une concurrence sur les origines, mais on sait que ça vient de la banlieue. Du coup, par exemple dans les chansons de rap, beaucoup de chanteurs parlent de tacos. Certains rappeurs se sont même lancés dans le tacos. Et donc c'est un produit qui est venu de la banlieue et qui a conquis en fait les centres-villes, parce que contrairement au kebab qui est resté un sandwich fait par des petits entrepreneurs indépendants, souvent turcs d'origine, en fait le tacos c'est quelque part structuré en franchise, un peu comme le McDo. C'est pour ça qu'il ressemble à la fois au kebab dans ses inspirations culinaires et au McDo dans la manière dont on le commercialise.
Et je pense à cet instant aux chères steak frites de Roland Barthes.
Oui, alors si Roland Barthes revenait parmi nous et écrivait ses mettez à jour ses mythologies 2022,
je pense qu'il parlerait
du tacos.
Tiens, au terme de cette émission, quelles sont les grandes tendances qui vont certainement émerger dans les années qui viennent, Rémy Hudghiri?
Alors par rapport à la France d'après, je pense qu'il faut retenir plusieurs choses. D'abord, la France d'après, elle produit de nouvelles générations. C'est-à-dire que cette éclectisme, cette hybridation dont on a parlé, elle va être portée par la génération, donc elle va s'inscrire dans la durée. Il y a la dématérialisation aussi qui va peut-être mettre en difficulté un certain nombre des évolutions dont vous parlez. Je pense aux centres commerciaux qui sont en grande difficulté aux États-Unis à l'heure de l'e-commerce, de la logistique dont vous parlez. Quid de l'avenir de ces grands centres commerciaux? Il y a certaines régions où ils périclitent. Et puis on est aussi dans la fragmentation. Les médias personnels ne cessent de se développer, et donc quid d'une vision commune? On est déjà dans une vision éclectique, fragmentée, et ça risque de se produire.
Et justement, à quelques mois de l'élection présidentielle, quels enseignements peut-on tirer de votre enquête, Jean-Laurent Casselli?
Alors, c'est vrai que c'est pas un livre directement politique, mais on aborde quand même la politique. On ne peut pas ne pas le faire à même pas un an de l'élection. En fait, nous, on a l'impression que toutes ces modifications, toutes ces évolutions, à la fois de modèle économique, de territoire, produisent des visions du monde. Voilà, on a une France qui va plutôt bien, celle dont on nous a parlé, la France triple A, des grandes villes, des littoraux, des retraités aussi qui ont un bon pouvoir d'achat. Cette France-là trouve que ça va plutôt bien et ne voit pas pourquoi on en changerait. Vous avez une partie qui, elle, est nostalgique et souhaite revenir en arrière. On a parlé des 30 glorieuses. Et puis vous en avez une troisième qui veut aller autre part, qui est déjà dans la rupture avec la société de consommation. C'est le fameux monde d'après. Vous avez un peu ces trois visions du monde, et je pense que nos auditeurs devineront assez facilement qui les incarne.
Faudra que vous reveniez, Jean-Laurent Casselli, pour parler notamment du patchwork spirituel français. C'est un chapitre absolument passionnant de votre livre « La France sous nos yeux ». C'est passionnant, c'est coécrit avec Jérôme Fourquet et c'est publié au Seuil. Merci Rémy Hudghiri du cabinet Sociovision. Demain, comment échapper aux sectes ?